Chapitre 4. Cette philosophie, si c'en est une, philosophie à courte vue, mais dont Maupassant adopte avec une sorte d'âpre conviction les conclusions grossières et désolantes, donne à l'œuvre de l'écrivain sa signification et sa valeur humaine, ce qui, au point de vue spécial des lettres, en fait la valeur, c'est que Maupassant, plus qu'aucun autre des écrivains de sa génération, a été un artiste. Car nous avons des savants qui, sous couleur de littérature, promettent de nous donner de l'histoire naturelle et de la sociologie. Nous avons des romanciers pour nous présenter la réalité toute nue et toute crue dans ce qu'elle a de décousu, d'incohérent et d'incoactif, des dramatistes pour nous offrir des tranches de vie, des poètes pour suggérer rien que par le jeu des voyelles tout un monde de sensations, et je pense aussi des peintres et des sculpteurs et des musiciens de mots. Mais ce dont nous manquons le plus, c'est d'écrivains sachant qu'écrire est un art qui a ses moyens d'expression qui lui sont propres, ses règles et ses lois, dont l'application est par elle-même quelque chose de beau, et qu'avant même d'être un art, c'est un métier, où l'on est d'abord apprenti et où, pour passer maître, il faut avoir fait son chef-d'œuvre. Ici encore, Maupassant ne nous a pas laissé de bien longues confidences, mais il y suffit de quelques lignes telles que celle-ci. Ce, dit-il, que rien ne satisfait, que tout dégoûte parce qu'il rêve mieux, à qui tout semble déflorer déjà, à qui leur œuvre donne toujours l'impression d'un travail inutile et commun, on arrive à juger l'art littéraire une chose insaisissable, mystérieuse, que nous dévoile à peine quelques pages des plus grands maîtres. Nous autres, qui sommes seulement des travailleurs conscients et tenaces, nous ne pouvons lutter contre l'invincible découragement que par la continuité de l'effort. Et ce qui est plus éloquent, plus concluant surtout que des protestations, c'est en effet, à travers son œuvre, la continuité de l'effort. Le premier signe auquel l'artiste se reconnaît, c'est qu'il a de son art quelque idée. Il sait quel en est l'objet et quels en sont les procédés. Il sait lui-même l'œuvre qu'il y veut faire et par quels moyens il espère y réussir. Poètes et romanciers et tous ceux qui s'intitulent eux-mêmes écrivains originaux, ils n'ont pas coutume d'en convenir. Ils mettent leur coquetterie à laisser croire qu'ils ne savent ce qu'ils font. Une belle œuvre leur semble plus belle s'ils ne l'ont pas faite exprès. C'est leur ambition de passer pour des producteurs inconscients, pareils aux forces aveugles de la nature. Mais l'événement leur donne un éclatant démenti, s'il est vrai qu'il n'y a guère de grands écrivains, qui n'étaient doublés d'un critique avisé. Pour ce qui est de Maupassant, on dit qu'il portait ses comptes naturellement, comme les pommiers de sa Normandie portent leurs pommes. Cela n'est pas exact. Je ne sais même s'il serait exagéré de dire qu'il avait ses théories. Quoi qu'il ait, lui centième, protesté contre les théories en littérature. Mais en tout cas, il avait réfléchi à propos des théories qui avaient cours autour de lui. Et ici, son originalité consiste dans les corrections et dans les réserves qu'il apporte à la théorie des écrivains réalistes ou naturalistes, et qui proviennent d'une connaissance plus judicieuse des exigences de l'art. C'est la prétention de ces écrivains de faire vrai. Et il n'en serait pas de plus légitime si d'ailleurs ce souci du vrai n'avait tant de fois servi de prétexte à des recherches bizarres et aussi étrangères à la vérité qu'à la beauté. Ils prétendent en outre, n'exprimant rien que la vérité, l'exprimer tout entière, c'est-à-dire donner de la vie une image qui lui soit exactement semblable. Mais la vie est composée de menus faits parmi lesquels il en est d'indifférent, d'illogique ou de contradictoire. L'artiste ne prendra dans cette vie encombrée de hasard et de futilité que les détails caractéristiques utiles à son sujet. Et c'est précisément en faisant œuvre de choix qu'il fera œuvre d'art. La vie présente, tout au même plan, précipite les faits ou les laisse se traîner indéfiniment. L'art, au contraire, consiste à user de précaution et de préparation, à ménager des transitions savantes et dissimulées, à mettre en pleine lumière, par la seule adresse de la composition, les événements essentiels et à donner à tous les autres le degré de relief qui leur convient. Il corrige sans cesse les événements au profit de la vraisemblance et au détriment de la vérité. À ce prix, il arrivera, au lieu de nous montrer la photographie banale de la vie, à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité elle-même. Mais qui parle de réalité et de quelle réalité parle-t-on, s'il est vrai qu'elle apparaisse différente à chaque individu? Chacun de nous se fait une illusion du monde, suivant sa nature. L'écrivain n'a d'autre mission que de reproduire finalement cette illusion avec tous les procédés d'art qu'il a appris et dont il peut disposer. Tout cela aboutit à séparer nettement l'art de la vie, celui-là devant être de celle-ci une reproduction d'autant plus précieuse qu'il ne cherchera pas à en être une copie servile. Et cela ne cesse pas d'être le réalisme, mais c'est le réalisme interprété par un artiste. Le dernier effort de l'art, c'est enfin de se dissimuler. Presque tous les écrivains d'aujourd'hui mettent une insistance, la plus déplaisante qui soit, à étaler sous nos yeux leur travail préparatoire. Les naturalistes vident dans leurs livres l'amas des notes entassées dans les portefeuilles. Les psychologues nous font repasser par tous les chemins qu'ils ont suivis pour arriver à la découverte qui seule nous intéresse. Mais l'artiste comprend que, s'il accepte de faire ce long et ce pénible travail, c'est précisément afin de l'épargner au lecteur. Un portrait achevé ne doit laisser transparaître ni les préparations ni les dessous. Cela même est la méthode de Maupassant qui ne nous montre jamais que des résultats.